T'as-tu déjà dit que ce que nous vivons, c'est un changement de culture profond? Que la dissonance crée de la souffrance? Que l'action sans conscience n'a pas de sens? Que nous manquons d'humilité? Qu'en réduisant le vivant à de la matière, nous l'avons désenchanté? Mais t'as-tu déjà dit aussi que le désespoir peut côtoyer la magie? Que repartir de toi est source de puissance. Que plus tu es OK avec ta vulnérabilité, plus elle peut se déployer. Que pour créer, il faut savoir raisonner. Que la résonance, c'est savoir à l'invisible ouvrir et fermer ses petits clapets. Que l'activisme peut être sacré. Qu'il est urgent de faire des choix, des vrais. Ceux qui nous font flipper. Ceux qui nous inspirent de la dignité. Et t'es-tu aussi déjà demandé, et l'amour dans tout ça? On parle pas assez de toi. Comment peux-tu nous aider? Bienvenue dans le 4e épisode de Crée-moi sur parole, saison 2 sur les sorcières. C'est avec Julia que j'ai eu la chance de parler de tout ça. Julia est une artiste. Elle a créé La Turbine, projet collectif et interdisciplinaire qui vise à inspirer et mettre en mouvement un futur désirable. J'ai eu très envie de l'interviewer, car nous avons besoin des artistes, plus que jamais. Pour nous aider à faire sens de ce qui est en train de nous arriver, pour nous aider à décaler notre regard, pour faire usage de notre corps, pour soigner, traverser, inventer. C'est le propre des artistes, de connecter à l'invisible pour créer. Un truc que le mental ne pourra jamais, lui, il ne va que là où il connaît. Embrasser cette capacité est incontournable pour tout réinventer. Julia, elle l'incarne avec grâce, intelligence et beauté, avec son projet, mais aussi avec qui elle est. Elle nous lance comme une danse cette invitation à nous ressaisir de tout notre corps, s'il vous plaît. Je suis Nathalie, coach et gardienne de l'écolieu Moulin du Rose dans le Finistère, un lieu ressource entre terre et mer où cultiver le vivant est notre première intention, où inspiration et gueuleton sont au menu de la dégustation. L'époque convoque les esprits créateurs, les êtres décolonisés, à l'instinct libéré. Mon truc à moi, c'est de réveiller le sauvage de ces humains-là, de les aider à déployer leur capacité à créer, à oser mettre dans le concret ce que leur âme vient tout doucement leur souffler. À devenir artistes de leur vie, in fine. À faire de la politique quelque chose à notre portée. Quotidien, excitant, concret. Alors avec ce podcast, je partage les histoires de ces sorcières et sorciers. Mon ambition, t'inspirer à toi aussi créer à partir de qui tu es. À embrasser ta magie, ton pouvoir et l'exercer. Point de nouvelle société, sans nouveaux humains pour l'incarner. Alors maintenant, décroche ta ceinture, ouvre grand ton cœur et tes écoutilles et c'est parti. Bonjour Julia.
Bonjour Nathalie.
Je suis ravie de t'accueillir au Moulin du Rose. Par une journée d'automne à la fois ventée et ensoleillée, juste quelques jours avant. Alors, on écrit Samhain, mais on peut dire aussi Samhain, en cette année de l'an 2022. Sois la bienvenue sur Crée-moi sur parole.
Merci.
Bon, bah, une grande question, hein, Julia, qui es-tu? L'idée un peu de cette question, c'est de te situer. Peux-tu nous raconter finalement les lunettes que tu portes sur le monde, ce qui t'anime, ce que tu fais aujourd'hui, ce qui t'y a amené et puis ce que tu souhaites transmettre en toute simplicité et prends ton temps.
Ok. Eh bien, je suis une femme de 36 ans. Je suis dans une grande période de transformation de ma vie. C'est assez profond et joyeux et déstabilisant aussi. Et donc un grand changement que j'ai opéré il y a 3 ans, entre ça a démarré par ma vie professionnelle, mais évidemment ça impacte toutes les sphères de ma vie. J'ai travaillé pendant 10 ans dans la culture à Paris. Et puis j'ai eu envie finalement de répondre aux enjeux un peu plus macro, on va dire, qui sont tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, l'écroulement du vivant, les changements climatiques, les bouleversements sociaux, sociétaux. Et je ne trouvais pas ça totalement juste de mon point de vue et de la place que j'avais dans la culture. J'avais besoin d'aller aussi vers le monde scientifique, vers les connaissances, pour vraiment avoir aussi un peu plus de compréhension sur les enjeux tout en ne quittant pas l'émotion. Et c'est comme ça qu'est né mon projet de la turbine que j'ai créé en 2017, d'abord sous la forme d'un blog. Et puis ensuite, ça s'est transformé dans une aventure un peu plus vaste. Et avec cette envie, alors si je pourrais la formuler comme ça maintenant, qui est d'inspirer et de mettre en mouvement pour créer un futur désirable à travers à la fois des expériences et des récits artistiques et scientifiques. Donc cette idée, c'était vraiment de mélanger plusieurs formes d'intelligence, l'intelligence plus conceptuelle, une intelligence plus émotionnelle. Et de se dire que doté de tout ça, de toutes ces lunettes là justement pour regarder le monde, peut-être qu'on se sent plus à même de pouvoir agir et de pouvoir avancer et se projeter en se disant voilà que ce qu'on peut construire demain peut être aussi une formidable opportunité d'écrire une histoire positive et d'en faire quelque chose d'excitant quelque part et de qui nous donne envie d'y aller, parce que je pense qu'on est des grands rêveurs et des grandes rêveuses, on a besoin de ça en tant qu'être humain.
Justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la mission de la turbine ? Notamment, tu parles de mouvement, je sais que c'est un sujet important pour toi, je sais que tu es connectée à la danse, par exemple. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la mission de la turbine et ce que tu souhaites transmettre avec ? C'est quoi l'esprit, en fait, derrière la turbine ?
Aujourd'hui, la turbine, donc, c'est vraiment devenu un collectif avec des auteurs, des autrices, des comédiennes, des comédiens, des citoyens aussi, des chercheurs. Donc on est vraiment rassemblés avec on est tous des utopistes, ça c'est sûr. Donc on travaille beaucoup sur cette notion de l'utopie. Qu'est-ce que c'est l'utopie ? C'est faire advenir aussi ce qui n'existe pas encore. Et donc c'est cette idée de se projeter demain, d'imaginer en fait comment on abordera un peu tous les sujets de société. Il y a une dimension très méta en fait dans ce qu'on aborde à la turbine, en se disant comment demain on parle de ces sujets-là, comment demain on se rassemble autour de ces sujets-là, c'est quoi les valeurs et le projet de société qui se dessine, en se disant que quand on parle de transition aujourd'hui, il y a tout un tas de transitions qu'on est en train de vivre, écologiques, sociales, sociétales. En fait, finalement, ce qu'on vit, c'est un changement de culture. Et c'est par cet angle-là, en fait, qu'on l'aborde, la turbine. Donc, je dirais que tout ce qu'on fait dans la turbine, c'est un processus, pas d'acculturation, mais en tout cas de création d'une nouvelle culture. Bon, en tout cas, d'une culture différente, qui serait la culture de demain, ou les cultures, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de modèle unique. Et ça se traduit à la fois par apporter du contenu pour penser autrement, pour regarder un petit peu avec d'autres lunettes, donc sur la partie média, à la fois avec l'écriture d'articles, la création de podcasts, de création sonore. Ça se traduit aussi par des formats spectacles, conférences, lectures un peu hybrides. On va aller mêler à la fois des contenus artistiques et scientifiques, et puis qui vont aller soit vers des formes plus spectaculaires ou vers des formes plus participatives avec des ateliers. Donc c'est un peu tout ce qu'on fait avec la turbine, donc c'est assez vaste. Et on aborde énormément de sujets qui sont des sujets qui vont aller de la santé à la spiritualité, à la quête de sens, des questions aussi sur l'habitat, se projeter sur tous ces sujets-là qui demain en fait pourront être amenés à être vécus autrement, quoi.
Et le mouvement dans tout ça ?
Et le mouvement, c'est... inspirer, mettre en mouvement, donc c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Inspirer, c'est vraiment dans le sens donner de la matière pour penser autrement, peut-être pour regarder les choses autrement. Et se mettre en mouvement, c'est en fait aller chercher finalement ce qui est à l'intérieur de soi. On parle souvent de prise de conscience au niveau écologique, ça reste quelque chose d'assez cérébral. Et moi, ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse à la turbine, c'est comment finalement ces prises de conscience cérébrales, on va dire, elles viennent peut-être parfois un peu plus du cœur et du corps, et comment en fait elles nous mettent en mouvement. Se mettre en mouvement, effectivement, ça évoque la danse, mais c'est aussi se mettre en marche et se mettre en action. Et évidemment, moi, je suis danseuse, je danse depuis toujours, c'est mon langage avec l'écriture, mais je dirais que c'est mon langage premier, la danse. Et c'est finalement comment ce qu'on est en train de vivre là aussi, c'est une manière de danser avec, avec les éléments, avec les événements. Et comment on peut se ressaisir de tout notre corps aussi pour vivre tout ça, en fait. Donc, on a introduit de plus en plus la danse dans nos projets. On travaille avec des chorégraphes. Moi, j'essaie de sortir un peu du bois aussi sur ma casquette de danseuse à l'intérieur de ce projet-là. Mais oui, la danse, c'est ce qui nous permet aussi de nous adapter et de créer, je trouve.
Sortir du bois, c'est très joli. Ça me fait penser à un ouvrage de Dil Chabriac.
Oui.
Merci pour ça. Comment tu vis l'époque, toi, Julia, du coup ? Tu parlais de se ressaisir avec le corps aussi, je trouve ça super beau. Comment tu la vis, l'époque, et comment tu fais avec elle, quoi ?
Eh bien, c'est un sacré tumulte.
C'est un gentil mot.
C'est un gentil mot, ouais. C'est un sacré tumulte qui, je trouve, a le mérite de nous pousser vers la radicalité. Moi, c'est ce que je vis depuis quelques années maintenant, en ayant quitté mon CDI, mon statut de responsable de la communication, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus incertain et plus fluide dans tous les sens du terme. Et comment je vis ça ? Bah, je le vis à la fois... je le vis de manière très intense, en fait, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure du corps. En fait, c'est comment j'ai ouvert de plus en plus tous mes capteurs. Et donc, tout est vécu puissance 1000. C'est-à-dire les grands moments, les grandes découvertes. Quand je te parle des grandes découvertes, c'est des choses intimes, mais comme les moments les plus de doute ou de vulnérabilité. Et donc, je traverse tout ça en ayant de plus en plus confiance dans le fait que ça fait partie de la vie. Et je me sens chanceuse d'être encore plus vivante qu'avant. Je pense que c'est ça que ça nous offre, cette période. Elle est désespérante à plein d'endroits et elle est magique à plein d'autres. Donc, je suis pessimiste, optimiste. C'est-à-dire que, à la fois, avec la turbine, on a un projet qui n'est pas très humble, des fois, je me dis, qui est un peu de changer le monde, entre guillemets. Non, pas de changer le monde, mais en tout cas, c'est un vaste projet avec beaucoup d'ambition. Et en même temps, je le mets à un endroit qui est très simple et très petit, de dire, tant que je suis sur cette terre, qu'est-ce que j'ai de mieux à faire que ça, que d'essayer ? Même si on nous pose souvent la question, parfois, sur certains formats, nous dire, mais à quoi ça sert ? Des fois, j'ai envie juste de dire, non, on cherche, on ne sait pas, on n'a pas de réponse. Mais en tout cas, il y a cette impulsion qui est là, ça, c'est sûr. Donc, c'est comme ça que je traverse l'époque. Et en fait, ce que j'essaye de faire aussi, c'est de me dire, c'est suffisamment difficile, tout ce qu'on est en train de vivre là, pour, en plus, moi... être en contradiction interne. Donc la question de l'alignement, c'est un moteur fort pour moi en ce moment, même s'il n'est jamais parfait. Et c'est ce que je fais aussi dans mon autre facette de vie, où j'accompagne aussi des gens dans leur transition de vie professionnelle, mais qui en fait n'est pas qu'une transition de vie professionnelle, qui est un processus d'alignement. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'aide à traverser l'époque, c'est-à-dire de me dire, bon, tout bouge autour, mais au moins, j'essaie de trouver les ancrages à l'intérieur de moi et j'essaie de ne pas être en trop grande dissonance. J'essaie.
Tu te sens intolérante à la dissonance ?
De plus en plus, je crois. Et de la percevoir chez les autres aussi, ça peut me provoquer en tout cas du malaise ou en tout cas une difficulté relationnelle. Même si j'ai beaucoup d'empathie par rapport à ça, et ma mission, c'est aussi de me dire comment je peux aider à ces processus-là. Mais oui, je suis assez convaincue que pour avoir prise sur tout ce qui se passe en ce moment, enfin, on n'a aucune prise, mais pour en tout cas traverser tout ce qui se passe, c'est comment déjà on se raccroche à son cœur.
Ouais, c'est à ça qu'elle nous invite, sans doute, peut-être.
Ouais.
Ouais.
Et quelle chance, en fait.
Mais oui.
Parce qu'on n'a jamais eu, je crois que les générations d'avant n'ont pas eu cette occasion, enfin en tout cas présentée de cette manière-là.
Merci de le dire comme ça. Ça fait du bien de l'entendre. On reviendra peut-être sur des éléments de ce que tu as évoqué là, mais on est dans cette saison de Crée-moi sur parole sur le thème des sorcières. Moi, j'aime bien parler de magie aussi. Quelque part, ce que tu évoquais tout à l'heure, de notre capacité à nous, les humains, à créer dans la matière, dans le concret, à partir de qui l'on est, de ce qui nous anime profondément, peut-être de ce que notre âme nous dit. C'est le sens du mot magie, d'ailleurs, dans la langue des oiseaux, l'âme qui agit. Moi, cette capacité, si je fais ce podcast, c'est parce que cette capacité, elle me semble fondamentale, visiblement, à toi aussi, pour s'épanouir déjà en tant qu'individu. Et puis, peut-être, sans doute, en tout cas, c'est ce que j'observe, pour changer de trajectoire non humblement, collectivement. C'est donc à la fois de politique que l'on parle dans ce podcast, mais aussi de magie, dans le sens de cette âme qui agit dans la matière. Et cette magie qui pose une intention est bâtie dans un sens délibéré. Alors tout ça pour te dire que j'aime en particulier interroger les femmes. C'est non exclusif, hein, mais j'aime en particulier interroger les femmes. Donc c'est bien de femmes, de magie et de politique que l'on parle ici, pour reprendre le sous-titre d'un ouvrage que j'aime beaucoup de Starhawk, nommé Révélé Obscur, je pense que tu connais.
Oui.
Je sais, j'ai senti d'abord, et je sais que tu as des choses à partager, beaucoup de choses à partager sur ces sujets-là. Alors merci d'être là, à nouveau Julia. Donc si la magie, c'est l'art de transformer les consciences, on pourrait prendre cette définition, y compris la sienne, hein. Est-ce que tu considères la pratiquer, Julia? Et si oui, pour aller un peu plus loin, dans quelle direction et de quelle manière tu le fais aussi au quotidien? Qu'est-ce qui te fait sourire?
Parce que oui et non, c'est-à-dire que... Moi, j'adore ce mot de magie, même si je ne l'emploie pas. C'est bien de l'entendre dans ta bouche. Et puis, avec cette définition, l'âme qui agit, je trouve ça hyper, hyper fort. Et je parlais de processus d'alignement, d'être à l'écoute aussi d'un tout. Le corps, l'esprit, l'âme. En ce sens, je pense qu'effectivement, être dans la magie, c'est aussi reconsidérer toutes ces... réécouter toutes ces parts de soi. Donc, c'est ce que j'essaye de faire depuis quelques temps, un peu plus. C'est aussi, je trouve, porter son attention sur des capacités non développées, mais qui sont là, en sommeil. Je parle de la sensibilité, mais au sens plus large, c'est aussi d'autres formes d'intelligence. Des intelligences peut-être plus intuitives. Ça dépend comment on les appelle selon ses propres croyances, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aborde par différents biais, on va dire, que ce soit ça aille du yoga, de la méditation, à la transcognitive auto-induite, il y a des pratiques peut-être plus ésotériques, on va dire. Quand je parle d'ésotérique, c'est se connecter à l'invisible. Mais oui, en ce sens-là, je cherche la magie. En tout cas, je cherche l'invisible et je cherche à me connecter à cet invisible. Ça, c'est sûr. Après, non, dans le sens où je crois que j'ai... Comment dire, je sais pas. Enfin, il y a tellement de choses que je ne sais pas. Et voilà, après, peut-être on aura l'occasion de reparler un peu plus en détail de pratiques spirituelles et pour soi, pour les autres. Mais oui, j'aime me connecter à cette dimension-là. J'adore cette définition, l'âme qui agit, ça c'est clair. Et je trouve que c'est s'ouvrir à ça, c'est essentiel. Je pense que c'est aussi les processus... profond qui se passe en ce moment, c'est de manière générale, de manière globale, c'est se reconnecter à cette magie, même si la plupart des gens ne se le formulent pas comme ça. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer aussi, n'importe quelle forme que ça prenne, en fait. C'est remettre aussi on peut appeler ça se laisser guider par son instinct, ses émotions, ses intuitions, comme aller pratiquer des rituels ou être dans des choses plus intentionnelles. Je trouve que c'est essentiel. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que oui, j'inclus dans mon quotidien même.
Et justement, Julia, qu'est-ce qui t'a amené à l'invisible ? Pourquoi tu cherches l'invisible ?
Je l'ai pas cherché l'invisible, il est venu à moi.
Raconte.
En fait, non, mais je pense que c'est. J'ai l'impression d'avoir un moment ouvert une porte. Même si ces incursions dans l'invisible existent depuis toujours, c'est-à-dire je n'avais pas forcément pris conscience de ça, mais moi j'ai eu une éducation catholique, même si mes parents n'étaient pas ultra croyants. On m'a parlé de l'invisible, on m'a parlé de quelque chose qui me dépasse depuis que je suis enfant et j'avais un imaginaire très développé, une grande rêveuse. Donc cet invisible-là, je le contacte à travers mes rêves depuis toujours, mais disons que c'est en 2016, j'ai fait un voyage en Chine. J'ai attrapé une vilaine bactérie, un petit campylobactère. Je me rappelle bien de son nom, j'ai une très mauvaise mémoire pour tout le reste, mais pas pour cela. Et qui m'a mis un peu à plat pendant 6 mois, même complètement. Gros problème digestif, le foie bien attaqué. Et ce qui a fait qu'en fait, je me suis sentie extrêmement vulnérable à ce moment-là et je n'avais pas de réponse claire qu'on m'apportait sur ce que j'avais.
Alors que Spicy garde le territoire, hein, ne vous inquiétez
ouais.
pas.
Elle a senti que je me sentais vulnérable.
C'est ça.
Elle a senti. Et donc ce grand moment de vulnérabilité et de un petit peu de sentir complètement désemparée parce que j'avais pas de réponse même médicale à apporter à ce que j'avais, ça m'a permis en fait de m'ouvrir en fait ouvrir une petite porte sur autre chose. Donc au début ça a été des petites choses très simples, une médecine, d'autres types de soins. Et puis, de fil en aiguille, en fait, je pense que cette porte, l'invisible, quand on lui ouvre un peu la porte, se ferait son chemin. Et voilà, et petit à petit, j'ai vécu des expériences qui ont été de plus en plus fortes, des expériences spontanées, de rêves ou de, on va dire, de rêves plus. De vision, de genre de choses et qui font que j'ai découvert un autre univers qui m'a apporté aussi des petits cailloux sur le chemin, on va pas dire des réponses mais en tout cas et qui m'a donné envie de poursuivre dans cette voie là et du coup d'accueillir en fait ce lien là, de le prendre en considération, de l'accueillir en moi. Et ça veut dire aussi avec la turbine on parle souvent de poser un regard différent, en tout cas de décaler le regard. Là en fait c'est décaler le regard mais aussi décaler ses sensations, en tout cas poser un autre regard sur ses sensations, être plus à l'écoute de ces infimes choses en fait qui se passent en soi et autour de soi, et après d'en faire aussi quelque chose pas uniquement sérieux mais aussi qui peut apporter beaucoup de joie, de synchronicité, de choisir de les écouter ou non. Et aujourd'hui, j'ai pas un rapport trop dogmatique à l'invisible, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très présent pour moi et qui me guide. Et je trouve que c'est comme tout, c'est le cultiver le rend plus fort. Il lui donne plus de justesse et d'impact. C'est comme si je réglais un peu mon outil interne, ma petite boussole, mon petit curseur, pour l'écouter plus.
Tu parlais de trans auto-intuite, ça parle peut-être pas à tout le monde. Tu veux en dire deux mots, justement, puisque je sais que c'est oui. lié à l'invisible.
Oui, oui. Mais d'ailleurs, c'est la première fois que j'en parle comme ça. Je pense que... Parce qu'il y a toujours un tabou autour de ça, et ça peut faire peur, et il y a tellement d'imaginaires qui sont liés au mot trans. Que ça va, d'en parler là, très simplement, ça va dans la démarche de cette pratique, qui est une pratique qui est développée et portée par Corinne Sombrin, qui est une femme qui a découvert l'invisible de manière assez forte en Mongolie, via le chamanisme, qui a été déclarée chamane, reconnue comme chamane en Mongolie, et qui finalement a accepté ce truc-là, mais puis l'a quand même un peu remis en question et l'a confronté à notre approche occidentale, en voulant comprendre, en voulant mettre de la connaissance et des explications scientifiques là-dessus, et qui en fait a lancé tout un processus. Elle a eu cette intuition de se dire qu'en fait on avait tous en nous la capacité en fait de se mettre dans des états modifiés de conscience de manière autonome, et qu'il fallait pas être uniquement chamane pour avoir accès à ça, et que c'est vraiment une forme d'intelligence qu'on a tous et toutes. Et elle a voulu prouver ça en lançant des sujets de recherche et des sujets d'études. Donc ça fait presque 20 ans maintenant qu'elle fait ça.
Ah oui, ça fait déjà 20 ans.
Ouais. Et donc aujourd'hui, elle forme alors en priorité des thérapeutes et des artistes à se réapproprier en fait cette compétence qu'on a, cette aptitude à rentrer dans des états de modifier de conscience, qui à en rentrer, à en sortir par la seule volonté. C'est ça la transcognitive auto-induite. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de substance, qu'une fois qu'on apprend à apprivoiser ce qui est le déclencheur pour nous, c'est de le reconnaître, d'accepter oui ou non si on a envie de vivre cette transe, et puis d'arriver à en sortir.
Souverain et souveraine.
Tout à fait. Et en fait, c'est rendre sa liberté, en fait, je trouve aussi aux individus de pouvoir vivre ces états modifiés de conscience qui, selon elle, par ailleurs, sont des états qui permettent qui ont des vertus, et qui auraient des vertus en tout cas sur tout un tas de pans de notre vie et de notre santé, on va dire. C'est des états dissociatifs. Donc des états dissociatifs, ça veut dire que effectivement, la notion de jeu se dilue un peu quand on vit ces états de conscience, et qu'il y a des choses dans le cerveau.
J-E, tu veux
dire. J-E, hein. Ouais. Je ne ferai pas une explication scientifique de ça. Moi, je vous invite à aller voir un peu ses écrits à elle. Et puis, j'avais animé une table ronde justement avec elle sur ce sujet-là.
On va le mettre en lien d'ailleurs dans l'épisode.
Ouais. Et donc, elle explique que cet état dissociatif, d'une part, permet d'accéder à la fois à d'autres informations sur soi-même, et puis aussi d'être aussi dans un autre rapport empathique aussi au vivant, aux autres vivants, humains ou non humains autour de nous. Il y a aussi des effets sur la perception du temps, de la douleur, donc c'est ça qu'elle cherche aussi aujourd'hui. Moi, je le fais dans un processus plutôt de connaissance de soi, et un processus artistique qui permet de reconnecter aussi avec d'autres parts de soi-même. Et voilà, et c'est un outil en fait qui m'accompagne, et qui, parlait de radicalité tout à l'heure, qui est une fois qu'on se lance un peu dans cette pratique-là et qu'on la fait rentrer dans sa vie, nous force aussi à ouvrir les yeux sur ce qui est et à réaligner beaucoup de choses.
Ouais, intéressant de l'utiliser comme ça.
Ouais.
Donc tu es en chemin vers la radicalité. Pour tout vous dire, nous avons très chaud dans le dôme. Donc on a fait une petite coupure et on reprend. Julia, le thème de la saison, c'est les sorcières. Je sais que tu aimes les mots. Alors évidemment, le terme sorcière est devenu très folklorique, fait la une de journaux sur papier glacé, mais c'est pas forcément ça qui m'intéresse. Et pour autant, je suis très curieuse de savoir quel est sincèrement ton rapport à ce mot-là. Est-ce que tu te dirais « je suis une sorcière » ? Est-ce que pas du tout, ça n'a pas de sens pour toi ? Enfin voilà, c'est quoi ton rapport au mot sorcière ?
C'est un rapport ambivalent, dans le sens où je pense qu'en tant que femme... Femme occidentale, je suis porteuse comme toi, comme toutes les autres femmes, de toutes ces violences en fait qui ont été faites à ces sorcières, qui ont été des femmes en fait, soit des soignantes, enfin en tout cas des guérisseuses, ou juste des femmes qui détenaient un savoir différent, ou juste des femmes tout simplement, qui ont été exterminées parce qu'elle représentait une forme de puissance. Donc, en ça, oui, je me sens porteuse de ce mot. Ensuite, effectivement, j'ai aussi une sorte de méfiance par rapport à la manière dont il est utilisé aujourd'hui, par rapport au folklore aussi qui pourrait y être lié. C'est de réhabilitation, en tout cas, d'un folklore ou d'une image de la sorcière telle qu'elle pouvait être justement fantasmée à l'époque. Donc, j'ai de la prudence par rapport à ce mot-là. Ensuite, si être une sorcière, c'est être une femme qui affirme à la fois sa vulnérabilité, sa puissance, qui a des choses à partager, que ce soit sur la connaissance ou des choses plus intuitives, et qui joue son rôle dans la société à cet endroit-là, ben oui, je suis une sorcière, mais c'est large, quoi.
C'est large et en même temps, tu as donné quelques indices et je sais que dans une discussion préalable, on en avait parlé aussi, tu parles de puissance et de vulnérabilité et de puissance. Ça semble être des sujets importants ou des mots importants pour toi. Tu mets quoi derrière et tu vis ça comment, toi ? Ta puissance, ouais, et ta vulnérabilité.
Ces deux polarités qui, je pense, sont à rapprocher... des polarités qu'on a à l'intérieur de nous, qui sont les polarités masculines et féminines, même si j'attribuerais pas la vulnérabilité au féminin et la puissance au masculin forcément, mais en tout cas, c'est quand je parlais d'intensité dans ma vie, dans la période que je traverse, je pense que c'est ces intensités là précisément que je traverse, c'est ces moments de puissance et ces moments de grande puissance et des moments de grande vulnérabilité, et de naviguer entre les deux et de ne pas montrer uniquement que la phase puissance au reste du monde, à notre entourage, mais aussi d'être OK sur le fait de montrer sa vulnérabilité et que c'est OK en fait d'être les deux et traverser ces deux phases-là et de l'exprimer. Et je trouve que c'est une vraie recherche que je fais moi en ce moment, enfin une vraie recherche. En tout cas, quand je dis c'est une vraie recherche, c'est un processus que je traverse d'accepter ces parts-là qui sont très fortes en chacun de nous, mais moi je le sens assez fortement avec moi. Accepter sa vulnérabilité, souvent on est assez porté sur le fait de penser qu'on est vulnérable, mais on a du mal à l'exprimer. Donc c'est exprimer ça de manière claire et sincère. Et de l'autre côté, sur la puissance, c'est oser affirmer qu'on en a une. Moi, c'est quelque chose que je visite beaucoup avec la transcognitive auto-induite, justement, et la danse, c'est retrouver ma puissance et la faire vivre. Donc voilà, en tant que femme aussi, je pense qu'on a pu être éduquée, je parle d'éduquée au sens large par la société, en tout cas à mettre un petit peu de côté cette puissance. Là, on en revient un peu sur justement le sujet de la sorcière. C'est une femme puissante, c'est qu'est-ce que c'est ? C'est une femme qui peut être un petit peu dérangeante aussi. Donc c'est remettre ça un petit peu en tant que femme, se défaire un peu de tous ces carcans qui soient plus ou moins lourds d'ailleurs, pour aller vers sa puissance. Et sa puissance, c'est simplement affirmer ce qu'on est, ce qu'on est, sa puissance d'agir, sa puissance d'être, sa puissance d'émotion. Donc ouais, c'est un sujet qui est hyper important pour moi.
Et on parle de puissance et de vulnérabilité, il y a les deux mots, et puis tu les décrivais un peu de manière, en tout cas c'est ce qui m'a semblé séparé. Comment l'un nourrit l'autre, justement ? Tu fais quel pont entre les deux ?
Oui, ils sont forcément liés dans le sens où ma fragilité, ma vulnérabilité sont présentes, m'indiquent des choses sur ce que je suis, sur ce que j'ai envie de vivre, sur ma capacité à endurer, sur les limites. Et en fait, reconnaître ça, c'est affirmer aussi une puissance, puisqu'en fait, c'est dire, c'est poser des limites, c'est poser des mots. Donc je trouve que finalement, plus on est vulnérable, plus on est puissant. Enfin, en tout cas, plus on est vulnérable et on le dit, et plus ça nous rend puissant, parce qu'en fait, cette puissance, elle est... Je trouve que la puissance, c'est être à sa juste place. C'est aussi incarner, briller ce qu'on est au maximum de soi-même. Enfin, au maximum de soi-même, c'est pas une question d'efficacité, mais en tout cas, c'est une question d'alignement. Mmh. Et sans la vulnérabilité, sans prendre en considération cette vulnérabilité, cette puissance, elle est amoindrie, je trouve.
Mmh.
Voilà, si je peux tenter
Merci.
Une définition.
C'était... Bravo, je trouve que t'as bien tenté. Comment tu te sens, tu parlais de dans ton corps, je suis curieuse de savoir comment tu te sens dans ton corps quand t'es puissante, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui émane, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe concrètement?
Je me sens... J'essaie de me reconnecter à un moment de puissance et en fait c'est... Il y a plusieurs choses qui me viennent, c'est à la fois quand je danse, et aussi des moments de ce qu'on appelle des moments de flow. Je vais décrire un peu plus ce que c'est, mais quand je suis avec des collectifs, avec des groupes, et que je peux être dans une parole qui me passionne, dans un partage en tout cas, et ce que je ressens à ce moment là c'est quelque chose qui part vraiment du bas du ventre, qui irradie. Il y a une forme de fluidité aussi, un peu à tous les étages, qui fait que il y a des mouvements d'un coup qui sont possibles, qui sont pas dans un état plus ordinaire. Il y a une clarté en fait aussi au niveau du mental. Il y a une joie, il y a une espèce de truc, une espèce de joie contagieuse qui s'engraine comme ça au fur et à mesure et qui fait des boucles en fait à l'intérieur. Entre la joie que je peux ressentir de manière plus cérébrale, qui vient nourrir en fait une énergie qui est plus centrale dans le corps, qui amène peut-être plus du bassin, et puis qui décuple une force physique. Je parle de la danse souvent là-dedans, mais et puis ouais, c'est cette sensation d'ancrage aussi. Ouais, je dirais ça déjà.
Et alors, du coup. Je ne peux pas résister à... Tu te sens comment ? Tu te sens comment quand tu te sens vulnérable ? C'est comment pour toi ? Si c'est ok de répondre à cette question.
Ouais. Je me sens en plus tournée vers l'intérieur. Évidemment, il peut y avoir cette sensation que... au niveau du regard, de la perception en fait qui se modifie, qui se rétrécit, qui est à la fois plus tournée vers l'intérieur. C'est vrai que je trouve que quand je me sens vulnérable, bah je suis moins connectée avec l'extérieur puisque l'extérieur du coup devient un peu une sorte de menace. Donc oui, il y a ce regard qui est plus tourné vers l'intérieur, je dirais, et puis les sensations physiques, les émotions. Quelque chose qui est plus séparé en fait. Souvent quand je me sens vulnérable, je me sens un peu coupée en plein de morceaux différents, et je parlais tout à l'heure d'une énergie qui circule en fait. Là, cet endroit là ça circule pas, ça bloque, ça serre, ça peut serrer dans le cœur, ça peut serrer ouais, cette sensation de perdre pied un peu aussi, à la différence de l'ancrage que je peux sentir dans la puissance. Ouais.
Ouais, merci. Moi, j'ai ressenti tout ce que tu as dit. Donc, rien qu'au son de la voix, ça, c'est intéressant, ces contrastes. Merci beaucoup. Je te propose de partir sur un thème que tu as évoqué dans l'un de tes articles, que l'on peut consulter sur le blog de la Turbine, que l'on mettra en commentaire, enfin dans la description de l'épisode, c'est le thème de la résonance. Alors pour préciser un peu le thème de la résonance, c'est la résonance entre nous les humains et le reste du vivant. Moi, c'est un thème qui m'est cher parce que, comme le dit par exemple l'auteur Baptiste Morisot, je sens que nous sommes dans une crise de la sensibilité et qu'elle manque de plus en plus à notre humanité, parfois à moi aussi, quand je me sens fragile et séparée et coupée. Du coup, dans un de tes articles, celui que je mentionnais, qui date de 2021, si je ne me trompe pas, tu cites un extrait de l'essai « Résonance, une sociologie de la relation au monde » du philosophe Hartmut Rosa. Je t'invite à le lire, si tu veux bien.
Oui. Okay. Connaître le monde vivant pour un moderne, c'est avant tout le désenchanter. Désenchanter ne signifie pas seulement ici renoncer aux croyances au surnaturel. Non, c'est autre chose encore. C'est faire la preuve que le vivant est d'abord de la matière, régi par des causalités mécaniques et dépourvu de signification et d'intentionnalité. Ce qui permet d'ailleurs de le considérer comme une simple ressource à disposition et ouvre la voie aux pratiques d'exploitation sans égard. Le propre de la modernité occidentale est de ne pouvoir accorder aucune qualité de résonance aux choses, c'est-à-dire aux objets non humains. L'univers de la modernité, qui tient sa légitimité de la connaissance rationnelle et scientifique, est un univers muet, dans lequel aucune voix ne se fait entendre, hormis celle de l'homme.
Merci. Bah, je suppose que ça résonne pour toi. Ça résonne comment ?
Oui, ça résonne évidemment. Je trouve déjà le mot résonance magnifique parce qu'en fait, il me fait penser au... Parce que tu parlais de Baptiste Morisot, mais il me fait penser à la notion du lien. En fait, la résonance pour moi, c'est, je le vois vraiment comme quelque chose qui émane d'une source, qui va rencontrer quelque chose ou quelqu'un d'autre et qui revient vers soi. Et en fait, cet aller-retour, il crée un lien. Et être en résonance, c'est créer ces liens invisibles, en fait, avec une chose, un être, en tout cas. Et ce qui décrit, en fait, Hartmut Rosa, c'est finalement tous ces liens dont on s'est privé, en fait, pendant des années. Et de retrouver en fait cette capacité à faire lien en fait avec toute chose, avec tout être vivant, bah ça pour le coup je trouve que c'est extrêmement joyeux et créatif et créateur et s'inviter à la résonance, c'est aussi c'est non seulement se mettre en lien, c'est-à-dire envoyer ses ondes, en tout cas son intention, son énergie, mais c'est aussi accepter de la recevoir et c'est ouvrir la possibilité d'être surpris et d'accueillir en fait aussi ce qui nous arrive et d'ouvrir la possibilité que cette résonance elle provienne de d'être insoupçonné comme je sais pas ces petites herbes qui passent à travers la tente là du dôme qui sont en résonance avec nous, qui nous apportent une forme d'énergie particulière. Mais ça peut être le cas avec un animal, avec un autre être humain, ou même une maison. Là, on est dans une maison particulière, le moulin du Rose. Et donc, je trouve que la résonance, ça me parle parce qu'il y a aussi une notion physique, je trouve, sur la résonance. Pour moi, je vois des ondes, je vois des choses qui ondulent, qui bougent, qui se mettent en mouvement.
On y revient.
Ouais.
L'invisible et le mouvement.
Ouais.
Est-ce qu'il y a eu un moment justement en parlant de ça et du fait qu'on ait oublié, on va parler de toi et moi et en particulier de toi, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es rendu compte que peut-être il y avait moins de résonance dans ta vie, et si oui, comment tu t'en es rendu compte?
C'est difficile de répondre à cette question parce qu'en fait je pense que il y a rien n'est là par hasard. Je reformule, c'est-à-dire que c'est difficile de répondre à cette question parce que ne pas être en résonance à certains moments, c'est peut-être aussi se concentrer sur autre chose, sur soi. On parlait des moments de vulnérabilité qui sont plus orientés vers soi, donc on est moins en résonance avec les autres. C'est des moments qui font mal et qui peuvent créer beaucoup d'incompréhension, mais que je pense qu'ils sont nécessaires de vivre. Donc quand je me sens dans ces moments-là, oui, je suis moins en résonance avec les êtres qui m'entourent,
mais c'est des moments apprenants quand même. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à en sortir et de retrouver ces moments de résonance et de lien. Oui, il y a des moments où je pense que j'ai pu plus mettre sous le tapis en fait mes besoins, mes désirs. Donc peut-être c'est des moments où je résonnais moins avec ce qui m'entoure. Aujourd'hui, ce processus d'alignement, c'est ça aussi, c'est être, c'est me mettre en résonance avec les autres. Mais je pense que c'est aussi un moment, ne pas être en permanence en résonance aussi, c'est savoir, enfin c'est ne pas se perdre et c'est savoir aussi faire la part des choses entre ce qui m'appartient et ce qui appartient aux autres. Et ce que je retiens, ce qui est mon socle, ce qui est mon centre, et ce qui peut m'être apporté par l'autre, qui peut venir me nourrir, mais de pas être ouverte aux quatre vents non plus totalement.
Ouais, c'est facile d'être submergée, ouais. Surtout quand on a une sensibilité un peu accrue.
Oui. Donc c'est, je dirais que il faut être conscient de cette résonance, et de notre capacité à être en résonance et et c'est comme c'est comme des petits clapets quoi, arriver à les ouvrir et les fermer dans les moments qui sont justes pour soi. Parfois on a l'impression de se couper des autres, mais peut-être que c'est pour une bonne raison. Et c'est
merci
temporaire.
Pour ça résonne pas mal justement. Je vais me faire l'avocat du diable un peu. Tu disais ce qui est important, c'est aussi de pouvoir en sortir de ces moments de vulnérabilité. En quoi c'est important de se mettre en résonance ? Pourquoi il faudrait le faire ? Et pourquoi ? Question métaphysique.
Mais parce qu'on n'est pas tout seul et qu'on est là pour... Enfin, on œuvre ensemble. On œuvre ensemble et encore plus en ce moment et encore plus demain. On a besoin de se réapproprier, de reconstruire ces liens. On est tellement dans nos bulles séparées. La puissance, c'est pas tenir debout tout seul, c'est reconnaître nos forces et pouvoir les mettre aussi au service de quelque chose de plus grand que soi. Et donc, je trouve que ta question c'était pourquoi c'est important de reconnaître sa vulnérabilité ou d'en sortir.
Pourquoi c'est important d'en sortir et pourquoi la résonance est importante. Alors Armoud Reza bien sûr en parle pour parce qu'on a fini par objectiver ce qui était en dehors de nous. Peut-être que se mettre en résonance, ben ça permet de désobjectiver, de refaire corps quoi.
Mais parce que une autre réponse ce serait c'est qu'en fait, c'est la multiplicité de nos regards en fait, qui fait le monde. C'est un peu bateau de dire ça, mais ce que je veux dire, c'est que quand on n'est pas en résonance, on est centré sur soi, on est refermé sur soi, on n'a qu'une perception des choses. Et qui n'est pas une perception empathique en plus. Et se mettre dans les baskets de l'autre, c'est aussi regarder le monde d'une autre manière. Et c'est ça aussi, c'est ça les processus créatifs aussi. C'est ce que font les artistes, c'est qu'en fait, ils décalent le regard, ils se positionnent en un autre endroit et regardent autrement. Et je trouve que la résonance, elle permet de faire ça, en fait. Elle permet de dire « Ah tiens, j'avais pas envisagé les choses de cette manière-là. » Et surtout, c'est pas forcément passer de son point de vue au point de vue de l'autre, mais c'est construire une synthèse et construire quelque chose ensemble. Ça me fait penser, parce que ça fait écho avec ce que je fais dans l'accompagnement, en fait, des tests de personnalité, dont un qui s'appelle le MBTI. C'est un outil parmi tant d'autres de développement personnel. C'est un test qui permet de mieux comprendre comment on fonctionne dans nos prises de décision, là où on puise notre énergie, dans notre rapport au temps, à l'organisation. Bref, il y a plein d'aspects. Et en fait, Myers & Briggs, quand ils ont créé, donc c'est deux personnes qui ont créé ce test, ils l'ont créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte où on sortait d'un conflit mondial. Et ils se sont dit, finalement, si les individus se connaissaient un petit peu mieux eux-mêmes, mais aussi dans leur manière d'interagir avec les autres, il y aurait moins de conflits sur Terre. Et je trouve que c'est une idée toute simple, mais elle est magnifique, parce qu'en fait, c'est ça aussi le développement personnel, ce qu'on appelle le développement personnel, c'est finalement mieux se connaître soi pour être en résonance avec les autres et pour être dans une plus grande harmonie aussi. Parce que c'est préférable au chaos, même si le chaos peut être créateur parfois, mais en tout cas, cette recherche d'harmonie me paraît assez essentielle.
Faudrait faire passer le MBTI à quelques personnes en ce moment. Ça pourrait être utile. Ouais. Alors on mettra le lien sur le MBTI ou MBTI en français à la fin de l'épisode aussi. Et ben ça fait une super, un super lien, je trouve, avec le sujet suivant. Parce que, faisons le lien avec le politique au sens large. Hein. On n'est pas en train de parler de partisans ou juste, entre guillemets, de partis politiques, mais de la vie de la cité, y compris avec les autres règnes que le règne humain. Et l'engagement collectif au sens large, finalement, on va faire simple. Tu parles dans un de tes écrits, que j'ai trouvé fantastique, Julia, d'un mouvement français que je ne connaissais pas, appelé Le Bûcher, donc merci pour la découverte, cofondé par Pauline Magnat et Claire Garin, si je ne me trompe pas. Je te cite, « Ce mouvement propose d'explorer les dimensions de l'activisme sacré. » Partant du constat que les luttes citoyennes pour sauvegarder le vivant, comme par exemple le mouvement d'Extinction-Rébellion, sont parfois déconnectées d'une dimension plus sacrée. En réintégrant des pratiques et rituels spirituels, il s'agit d'ancrer profondément son action dans son chemin de développement personnel, tu en parlais tout à l'heure, de partir de l'âme pour trouver la justesse de son action dans la matière, de soigner son corps et son esprit, de co-créer avec les autres vivants, avec l'invisible, d'être dans la pleine conscience de ses choix. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Mmh. Moi, j'ai l'impression qu'on parle de, effectivement, se réapproprier ce qui doucement nous a été enlevé, par exemple des rituels, la connaissance de soi, pardon, l'esprit. Autrement appelé aussi « reclaim », vraiment se réapproprier en français. Qu'est-ce que cela change selon toi politiquement, collectivement, de justement repartir de son chemin dit de développement personnel ou d'éveil ou de cheminement individuel, enfin de repartir de soi par rapport à l'engagement politique, l'engagement militant, l'engagement tout court en fait.
Bah, je trouve que c'est une source de... Pour le coup, c'est une source de puissance parce que on est sur des enjeux qui sont tellement énormes quand on parle de l'activisme. En tout cas, les sujets qui sont abordés sont immenses et on peut se sentir assez petit par rapport à ça. Et je trouve que c'est comme quand je parle du langage et de la culture et de se dire que finalement, le premier pas qu'on peut faire, c'est de partir des mots. C'est le plus petit dénominateur commun. Et je trouve que de partir de soi dans cette dimension politique, activiste, c'est la première chose qu'on puisse faire et c'est surtout la première chose à la fois parce que c'est la plus à portée de main.
On a le pouvoir.
Pas forcément la plus simple, mais c'est surtout la plus essentielle en premier lieu. C'est-à-dire que d'être au clair sur qui je suis, sur le sens de mon action, sur à quoi je me relie, qu'est-ce que je défends, parce qu'on peut défendre des choses différentes. C'est primordial avant de se mettre en action en collectif. Je trouve que ça répond aussi à ça fait écho chez moi en fait la notion d'activisme et d'activisme sacré parce que je me suis toujours posé la question de quel archétype est-ce que l'archétype de la guerrière était actif en moi. C'est un archétype qui me fait vraiment peur, peut-être parce qu'il est lié à la notion de puissance, je sais pas, et de colère, mais en tout cas, j'admire énormément les gens qui accueillent cet archétype et qui le vivent. Je pense que c'est des phases aussi de vie. Peut-être que je serai amenée à aller plus vers ce mode d'action-là à un moment donné. Mais je trouve, et c'est ce que j'aime dans Le Bûcher, c'est que finalement, elle fait la synthèse et elle rappelle quelque chose de fondamental qui est l'action sans conscience, l'action sans âme n'a pas de sens. En tout cas, il peut avoir un sens immédiat. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une portée pour un individu qui se met collectivement au service d'une action à un moment donné, mais dans la durée, c'est comment en fait ces individus répondent à la question « qu'est-ce que je fais là profondément ?» Comment ça vient nourrir mon être ? Comment ça répond à ce que je suis ? Et comment, en fait, je peux nourrir le mouvement global de mes intentions et de mon énergie. Juste d'avoir conscience de ça, je pense, décuple, en fait, la force, la puissance du mouvement. Et elle parlait beaucoup aussi de prendre soin, parce que finalement, dans le milieu activiste, il y a beaucoup... En fait, c'est comme tout, on passe toujours d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire rentrer dans l'activisme, c'est aussi peut-être s'oublier soi-même et se mettre uniquement au service de la nature ou d'enjeux voilà, qui seraient extérieurs à nous, en oubliant qui on est, en oubliant nos propres besoins, nos propres limites, nos propres émotions et sensations. Et elle propose de faire cette synthèse-là, de se dire finalement un mouvement durable, même activiste, n'est valable que si, je redis, il est conscient, en tout cas, il est fondé sur des êtres qui prennent soin d'eux avant tout, avant de prendre soin des autres.
Tu crois que ça pourrait même être contre-productif d'être activiste pour une cause a priori juste, peut-être mentalement ou sur le papier, mais non juste à l'intérieur, dans la façon dont on le mène?
Bah oui, parce que c'est toujours ce truc de créer ça crée de la dissonance, ça crée de la déperdition énergétique, je pense. Parfois, on n'a pas conscience qu'on est en dissonance, et parce que ça paraît tellement juste, la cause pour laquelle on se bat, que ça paraît tellement fort, tellement nécessaire, en fait, qu'on occulte tout le reste et on ne voit pas que ça nous épuise et que ça demande beaucoup trop... et finalement au bout d'un moment cette énergie là elle va complètement disparaître ce sera contre-productif. Encore une fois, moi j'ai pas l'impression d'être dans une dimension activiste, mais en tout cas j'essaye de me poser régulièrement la question de savoir si je suis à ma juste place. Je crois que c'est surtout ça la question, et si je prends soin de mon énergie et de ce que je suis pour pouvoir continuer à le faire pendant longtemps, de pas s'épuiser trop vite, puisqu'en fait ça sert pas non plus la cause ou le mouvement qu'on sert, quoi.
Et est-ce que tu vois, alors que les cocottes passent à côté de nous
trop belle.
Est-ce qu'une transformation radicale du coup de notre société, on a l'impression que c'est vraiment urgent, nécessaire, vital même aujourd'hui pour notre humanité. Est-ce qu'une transformation radicale serait possible sans passer par là? Justement, sans passer par ce que moi je pourrais appeler cette écologie intérieure.
Je crois que... Je n'ai pas de réponse, mais la sensation que j'ai, c'est... Je crois qu'il faut qu'on soit assez humble sur ce qu'on peut à l'échelle de notre vie d'humain. Ce matin, quand tu me parlais du lieu dans lequel vous êtes, tu disais que vous aviez planté des arbres, mais que certainement, ils vont grandir sans vous aussi. Je trouve ça magnifique comme image. Enfin, je pense qu'il faut être assez sincère et authentique avec soi-même sur le fait de se dire tout ce qu'on fait là... on ne sait pas ce que ça va donner, on sera certainement pas là pour voir basculement si basculement il y a, ou en tout cas de se rendre compte de la transformation que ça crée. Donc j'ai oublié la question précisément, mais
c'est pas grave.
mais ce que je veux dire, c'est que j'essaie d'avoir un peu d'humilité par rapport à ça et de me dire fais du mieux que tu peux tant que t'es là.
Ouais, finalement, ça me fait penser un peu à cette échelle de Corinne Morel-Darleux, plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Quoi.
Exactement.
Faisant les choses qui nous rendent dignes au moment présent.
Oui, puis on parle beaucoup d'éco-anxiété en ce moment. J'ai vécu ça très fortement cet été. J'étais vraiment dans une énergie de mort, de deuil, de peut-être pour des meilleures renaissances, mais en tout cas... ces chaleurs qu'on a vécues, puis d'autres événements peut-être plus intimes aussi, mais font que je trouve que ça nous remet à notre juste place, en fait, de se dire, ben oui, on agit, oui, on peut faire tout ce qu'on... Quelque part, j'ai l'impression que moi, c'est ma mission, en tout cas, mon énergie, elle me porte à faire tout ce que je peux, mais la vérité, c'est que je sais pas. La vérité, c'est que j'ai aucune prise et que surtout, il y a encore cette illusion de puissance de se dire qu'à soi seul ou à un mouvement activiste, quel qu'il soit, on peut renverser les choses et le faire sur une échelle de temps qui soit relativement courte. Moi, j'ai l'impression qu'on travaille tous à ça en ce moment, tout et tous à ça, et que ça va advenir, évidemment, ce moment de bascule, mais qui ne sera pas forcément celui qu'on imagine, peut-être, ou en fait, on ne voit peut-être même pas tous ces basculements qui sont là devant nous. Bruno Latour, qui est décédé récemment, disait qu'on est déjà en fait rentré dans un autre, dans une autre civilisation. C'est une lecture, on peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, moi, je suis assez persuadée qu'en fait, on est trop petit et petite pour voir... pour avoir un regard sur ce qui se passe et ce qui est en train de se passer.
Oui.
Et peut-être que on reviendra dans quelques millénaires sous une autre forme pour dire tiens,
ils ont fait un truc pas trop naze. Jouons notre partition.
Ouais, ils ont brassé du vent.
Ou ils ont brassé du vent ou les deux.
Ouais.
Bon, on approche de la fin du podcast. J'ai quelques questions que j'appelle un peu les questions rafales de fin, Julien. Question courte, réponse courte. Alors, j'aime bien dire ou pas. C'est okay. Toi qui vois. La première, c'est tout simplement, si tu n'étais pas là au micro bleu avec moi dans ce dôme, Julien, qu'est-ce que tu ferais là maintenant?
Je crois que je serais dans la mer là.
Ah, bah mince, je suis désolée.
Mais je vais y aller tout à l'heure, donc je me console à cette pensée.
Avec ou sans combinaison?
Sans combinaison aujourd'hui.
Waouh. Ok, Spinoza disait que pour développer de la puissance d'agir, il faut trouver la joie. Alors j'ai tout simplement envie de... Et je suis curieuse de savoir ce qui te met en joie.
La danse, la musique.
Quel genre de danse d'ailleurs?
Quel genre de danse Eh bien, je suis en train d'explorer d'autres formes de danse. La danse improvisée, ça c'est sûr. Et puis, en ce moment, je pratique beaucoup une danse qui est une danse swing, qui est une danse d'origine afro-américaine, le solo jazz, qui est une danse avec des codes historiques, mais qui est une danse de la, je trouve, qui est profondément joyeuse. Avec cette musique jazz que je trouve fabuleuse. Donc danser ça, l'enseigner, le transmettre, c'est quelque chose qui m'apporte énormément de joie et d'énergie, ça c'est clair. Et puis aller explorer après peut-être des choses plus contemporaines aussi et faire des ponts entre tout ça. Ça me ça me rend joyeuse, ouais.
Qu'est-ce qui te fait perdre ta joie?
Et ben, dézoomer un petit peu. Dézoomer un peu et justement m'ouvrir à regarder un petit peu ce qui se passe de manière un peu plus macro et là pour le coup me sentir impuissante.
Et comment tu fais pour la retrouver? Tu vas danser ou il y a autre chose?
Et bah je rezoome. Je rezoome sur là où je suis, sur ce que je peux faire, sur bah, mon centre et ce qu'il y a autour. Ma capacité d'agir.
Ouais, c'est un bon rappel, merci. Qu'est-ce qui te met le plus en colère?
L'injustice, sous toutes ses formes, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup mis en colère. Et puis, je dirais, si je peux rajouter un truc, et ben, la dissonance chez les autres. Qui me devient de plus en plus insupportable.
Et tu te dis pas dans ces moments-là que c'est un miroir?
Si.
Ça fait quoi du coup? Ça enlève la colère ou pas?
Ça pique un peu, ça permet de redescendre un peu et de se dire bon, quand même 2-3 trucs à travailler encore.
Pourquoi ça te met en colère la dissonance chez les autres?
Parce que ça crée de la souffrance. Ça abîme les liens. Ça coupe la résonance, enfin tous ces trucs là quoi.
Ça coupe la résonance, ouais. Ça peut créer du déni aussi, je crois, non?
Oui.
Il y a plein de stratégies avec ça. T'as perdu des amis à cause de ça, des copains, des proches?
Oui.
Ça, c'est que ça va assez loin. Effectivement. Y a pas mal de tri, j'ai l'impression, qui est fait en ce moment.
Oui.
On n'ouvrira pas ce sujet aujourd'hui. Y a-t-il des sorcières et sorciers qui t'inspirent, vivants ou morts, réels ou imaginaires, et si oui, lesquels?
Alors, proche de moi, tout un tas de personnes qui gagnent à être connues, vraiment, des artistes, ou juste des êtres vivants qui agissent et qui essaient à leur juste place. Ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Mais sinon, dans des figures plus connues, alors j'aime bien être dans le cérébral quand même, donc des penseurs et des penseuses. Là, je suis en train de lire Donna Haraway, qui est une philosophe des sciences américaine qui nous parle de la civilisation qu'on est en train de vivre et de symbiose, de compost, que je trouve absolument passionnant et très joyeux.
T'as un ouvrage en particulier à recommander de Donna Haraway ?
C'est Vivre avec le trouble. En plus, je trouve que le titre est sublime. Et après, dans les françaises, il y a une femme que j'admire beaucoup, même si elle peut avoir une posture très pas élitiste, mais en tout cas, voilà, qui est une intellectuelle vraiment avec un niveau de langage qui peut parfois être un peu complexe. C'est Cynthia Fleury, qui est d'une grande puissance de pensée et de conceptualisation, et à la fois une poète, une poétesse vraiment. Elle m'inspire beaucoup, cette Cynthia.
Là aussi, un ouvrage ou une conférence, quelque chose que tu as envie de recommander sur Cynthia Fleury.
Elle a écrit beaucoup de choses, notamment sur le soin, et puis. Et ça me fait penser à encore une autre femme, mais c'est pas une réponse courte du coup.
Non, c'est pas grave. J'ai dit ou pas. Hein.
Anne Dufour-Mantel, qui est une psychanalyste, il me semble, qui est décédée il y a quelques années et qui a écrit Psychopathologie de la vie amoureuse.
Sacré titre.
C'est un petit décalage par rapport à notre sujet, mais on l'a pas mentionné, mais quand on parle de lien, je trouve que c'est important de parler d'amour. Oui. Et elle est inspirante à cet égard. Et puis, ce qu'elle était en tant que personne aussi, je crois, j'ai écouté des choses sur elle, sur sa vie, sur ses liens, justement, sur le rapport à l'amitié qui me passionne. Et il me semble que c'est elle qui a écrit Éloge du risque.
Ok. Merci. À vérifier.
Ou couper.
On vérifiera. Ou pas. Ok. Il y a d'autres sorcières ou sorciers que tu voulais citer ?
Après, j'ai envie de citer des hommes parce qu'il y a des hommes qui me passionnent. Mais, mais j'avais
Bruno
plutôt
envie. Bruno Latour, déjà.
Bruno Latour, ça c'est sûr. Il y a un Australien. En fait, je reviens tout le temps sur son ouvrage en ce moment qui est Les émotions de la Terre, qui s'appelle Glenn Albrecht.
Albrecht, c'est drôle, je dois aller le chercher en librairie.
Oh ouais, et qui, je trouve, c'est pas de la grande littérature, mais c'est un philosophe qui conceptualise, en tout cas, je trouve qu'il met des mots sur. Justement sur une autre vision et justement qui est vraiment dans cette recherche sur les mots et sur le langage. Et comment dire en fait ce qu'on est en train de vivre, cette perte du vivant, cet effondrement. Et donc ça me fait rebondir sur quelqu'un qui est plus controversé aussi, mais qui m'offre quelques petites épiphanies, c'est Aurélien Barraud. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui m'inspirent, mais ce serait trop long de les citer.
Chouette panel en tout cas. Si j'avais une baguette magique et que, en fait j'en ai une. Mais bon, on va pas trop le dire. Si j'avais une baguette magique...
J'en doute pas.
Si j'avais une baguette magique, Julia, et que je pouvais répondre à l'un de tes souhaits, ce serait lequel ?
S'il te plaît, Nathalie, donne-moi la petite impulsion pour faire sauter tous les derniers verrous qui m'empêchent d'affirmer ma puissance.
Ok, tu voudrais citer un ou deux verrous ? Ce sera plus facile pour activer ma baguette.
L'exigence et une forme de regard sur soi.
Donc moins d'exigence ou plus d'exigence ?
Moins d'exigence,
ça pourrait être les deux, hein.
Okay. Moins de contrôle.
Ok. Et la douceur, et le regard et de l'amour sur toi-même ?
L'autocompassion.
Ok.
Je prône souvent ça dans les groupes que j'anime et... Je les invite à avoir plus d'autocompassion sur eux-mêmes et je vais essayer de faire sauter ce verrou-là pour moi-même aussi.
Ce qui est génial avec la baguette magique, c'est qu'une fois que c'est, les mots sont envoyés, en fait, ça devrait se réaliser. Julia, y a-t-il un dernier message que tu n'aurais pas encore dit, qui est peut-être encore un tout petit peu empêché, mais qui est sur la brèche, là ? On passe d'être dit haut et fort. Quel serait ce message ?
Un message pour les autres ?
Pour qui ou ce que tu veux, mais sans filtre.
Eh ben, je crois que ce qui est important, là, c'est de faire des choix. Je me parle à moi-même hein, quand je dis ça, mais je pense que ce sentiment d'impuissance dont on parlait là, c'est aussi à un moment donné vouloir aller un peu dans toutes les directions, être surstimulé aussi par énormément de choses. Et j'essaie de travailler là-dessus en ce moment, c'est canaliser la puissance et la mettre voilà, sur des choses, en tout cas faire des choix et être ok avec ça, les assumer et de se dire que c'est pas grave si on peut pas œuvrer dans tous les champs.
Merci, ça résonne tellement. Grosse émotion. Tu l'as pas dit qu'à toi-même. Bon, c'est l'heure de la question finale. Et la question finale, c'est une question surprise. La question surprise, c'est y a-t-il une question que tu aimerais que je te pose ? Et si oui, laquelle ? Tu
wow.
peux prendre ton temps.
Je pense que une question que tu aurais pu poser, ce serait Waouh, c'est hyper dur.
Eh oui. Ce qui est beau, c'est qu'on peut couper si on veut un peu de blanc.
Tu ouais.
peux prendre le temps.
Je pense que j'aurais aimé qu'on parle de l'amour.
Et ce serait quoi la question que je pourrais te poser ?
C'est quoi pour toi l'amour ? On parlait de puissance, de magie, de politique. En quoi l'amour, ça peut aussi avoir cette capacité ? Enfin, en quoi l'amour, c'est magique, si je synthétise tout ce que tu as dit là ?
Est-ce que tu es partante pour que je te pose en quoi l'amour est magique ? Tente de voir ce qui sort.
Mais bah, c'est, en fait, l'amour, c'est à la fois... c'est la résonance, mais à un niveau interstellaire. L'amour, c'est ce qui enveloppe. Enfin, en fait, moi, je l'ai pas dit ce mot-là, mais il y a le mot de tisser, qui est quelque chose qui me caractérise pas mal, je crois, et toi aussi, je pense. De tisser des liens. Les tisser, en fait, c'est pas seulement les faire exister à un instant T, c'est en fait les accrocher un peu. C'est faire créer justement une enveloppe. Ben justement, c'est y mettre de l'amour. Enfin, cet amour-là, en fait, c'est. Je pense qu'il peut être parfois palpable aussi dans ces liens qu'on tisse. Et en quoi l'amour c'est de la magie, bah c'est l'amour est l'amour qu'on se porte à soi déjà peut être transformateur. On parlait d'autocompassion tout à l'heure. L'amour qu'on porte aux autres aussi peut avoir une capacité d'action et de mise en mouvement phénoménale, je pense. Et c'est comme tout, je pense que c'est accepter de se dire que la magie, elle est là à un instant T pour une chose précise. Et que ça peut évoluer. Je ne sais pas si c'est très clair quand je dis ça, mais accepter aussi que l'amour, c'est quelque chose qui est invisible. Et donc qui circule, quoi.
Merci l'invisible. Il a une épaisseur parfois.
Ouais.
Ça, je pense que ça s'est même senti pendant le podcast. Julia, merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup d'amour.
Merci Nathalie.
À bientôt.
À bientôt.
Merci Julia pour ce moment privilégié. Hors du temps, dans la chaleur du dôme, entourée de coquins autres êtres vivants qui, même sans micro, auront donné de leur voix. Merci pour la douceur de ton intensité, ta transmission de l'invisible, ta puissance, ta vulnérabilité. Je me sens chanceuse d'avoir le prétexte du micro pour poser ces questions qui laissent si peu de place au prêt-à-penser, qui marient intime et universalité, révolte, sagesse et sororité. Pour découvrir Julia, son univers, rendez-vous sur le blog de laturbine.org. Et si cet épisode vous a plu, mettez-lui des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute. Ça me fait très plaisir de vous lire et ça donne une chance à d'autres de le découvrir. Et avant de vous laisser, j'ai une annonce personnelle un peu particulière à vous faire. Au moment de la sortie de cet épisode, le Moulin du Rose est en pleine campagne de financement participatif. Alors si vous souhaitez aider la finalisation de notre projet et ou en savoir plus sur ce dernier, rendez-vous sur la plateforme bretonne Kengo pour nous lire, nous voir en vidéo, faire un don et ou partager. Le lien est en description de l'épisode. Sorcières, sorciers, mettons-nous debout. Osons vibrer ce que nous sommes dans notre entièreté, même et surtout quand ça déplaît. Kenavo et à bientôt.